Bonjour à toutes et à tous. En octobre 2017 avait lieu la 18e édition du Festival du Légendaire, créé par la compagnie AMSA sous l'impulsion de son directeur artistique passionné, le conteur Pascal Folio. Ce rendez-vous de l'imaginaire et du conte a fait voyager des spectateurs toujours plus nombreux au fil des ans, des voyages dans le monde entier à la redécouverte des mythes et des légendes qui ont forgé et nourri l'humanité. Tout l'été, Radio Grand Ciel, en partenariat avec la compagnie AMSA et le conseil départemental d'Eure-et-Loire, vous propose de revenir aux sources de notre imaginaire avec les conteurs, auteurs, universitaires et artistes réunis lors des rencontres du légendaire. C'était le premier salon du livre organisé dans le cadre du festival. Radio Grand Ciel y était les 28 et 29 octobre 2017 dans le décor somptueux du château de Maintenon, géré par le conseil départemental. Aujourd'hui, place aux invités d'honneur de ces premières rencontres du légendaire, Alejandro Jodorowsky, à la fois réalisateur, auteur de BD, de romans, d'essais ou encore de recueils de contes, et Henri Gougaud, bien sûr, le parrain de l'événement, grand spécialiste du conte en France, conteur lui-même, créateur de la collection Contes des Sages chez Seuil. Ils sont accompagnés de Pascal Folio, créateur du Festival du Légendaire et conteur, et de Marc Desmet, éditeur, écrivain et journaliste. La table ronde dont nous allons écouter aujourd'hui la première partie s'intitule « Nos ombres et lumières révélées par les contes ».
Notre invité d'honneur est parmi nous, Alejandro Jodorowsky. C'est la fameuse table ronde telle qu'elle est annoncée, nos ombres et lumières dans les contes. C'est ça, Marc, c'est toi qui as choisi cet intitulé.
Tout à fait.
Je représente quand même tout le monde. Marc, donc, qui est à la fois éditeur de spiritualité, surtout, et aussi auteur de témoignages, de textes, de réflexions, également, on peut dire, collecteur et finalement auteur de recueils de contes, et notamment de contes zen. Tu as été parmi les premiers à publier des contes zen.
Oui, j'ai eu la joie de te publier quand tu étais encore un jeune homme qui avait envie de t'intéresser aux contes. Et on a fait un très beau recueil avec Pascal qui s'appelle Les contes des arts martiaux.
Oui, qui a un succès international.
Oui, qui continue à marcher incroyablement bien.
Mais en tout cas, tu m'as donné ma première chance et tu vois, il y a un cycle. Finalement, tu m'as aussi donné un coup de pouce là, pour ces rencontres. Je t'en remercie.
Il faut aider toutes les initiatives qui peuvent donner un peu de sens à ce que nous vivons et qui peuvent nous faire avancer tous d'une manière ou d'une autre.
Alors, à tes côtés, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui compte toujours, mais qui a quand même beaucoup compté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai tourné un bouton d'autoradio, j'ai entendu une voix d'outre-monde qui racontait des légendes. C'était complètement surréaliste pour moi d'entendre ça sur des médias dans les années fin des années 70. Et je me suis dit, mais voilà, moi qui cherchais désespérément quel métier honorable je pourrais faire dans cette société, je me suis dit, tiens, voilà une piste. Et ça a fait son chemin. Et Henri aussi m'a mis le pied à l'étrier pour une collection, la collection Contes des Sages au Seuil, qui m'a permis de réaliser quelques rêves également. Parce qu'en fait, c'est ça, je crois que le conteur, c'est aussi celui qui a envie de partager des histoires qui l'ont touché, qui l'ont fait vibrer. Et il a envie aussi de les partager avec d'autres pour qu'ils vibrent avec lui. Et enfin, et pas des moindres, Alejandro Jodorowsky, donc, qui est multi-auteur, on peut dire, multi-artiste, entre auteur de romans, de théâtre, de BD, cinéaste, poète, et finalement conteur aussi. Moi, j'ai été bien sûr touché par vos œuvres aussi en étant adolescent, parce que finalement, il y a certaines influences qui nous atteignent à travers justement des œuvres d'artistes et puis qui nous nourrissent et qui nous orientent. comme vous êtes un éternel jeune homme, j'ai découvert que vous étiez lancé vous, dans un nouveau cycle, celui des chevaliers d'Héliopolis, où là, vous avez fait la démonstration du thème de ces rencontres, de ce salon du livre Patrimoine et Imaginaire, parce que vous avez pris une légende, une célèbre légende de l'histoire de France, celle qui voudrait que Louis XVII ne serait pas mort dans la prison du Temple, qu'il aurait survécu et vous avez imaginé sa vie. Et bien sûr, il a rencontré des alchimistes, des personnages qui l'ont sorti en tout cas de la, disons, de la politique et du goût du pouvoir pour l'emmener ailleurs dans une quête spirituelle. Voilà, donc j'ai été aussi très touché par... Et j'ai trouvé que vous étiez complètement en correspondance avec ce qui nous réunit ici.
Merci.
Ouais, j'ai plus rien à dire, je crois que... maintenant, c'est à vous. Ben, c'est toi, Marc, qui a trouvé ce thème. Alors,
Écoutez, ombre et lumière dans les contes. Pourquoi ombre et lumière dans les contes? Parce qu'en fait, les contes sont le reflet, en quelque sorte, depuis... je pense, l'origine de l'humanité, depuis que l'être humain s'est parlé et raconte des histoires, de toutes nos aventures dans la vie et de toutes nos quêtes et de toutes nos recherches personnelles et de notre questionnement au monde, le fameux questionnement qui est « qui suis-je, où vais-je, dans quel état j'erre, qu'est-ce que je fous ici, etc. etc. » Et donc, les contes sont le reflet de tout ça. Et pourquoi ombre et lumière dans les contes? Parce que en chacun de nous, il y a vraiment le pire et le meilleur. Et nous le savons bien que nous sommes complètement habités par des tendances négatives, des tendances positives, et qu'il faut réussir à équilibrer un peu tout ça. Et donc je me suis dit que c'était intéressant avec... parce que moi, je ne suis que... Il m'est arrivé de compter des choses, il m'est arrivé surtout d'éditer des contes, dont ceux de ces... messieurs, mais je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une petite discussion à travers peut-être des contes, puis à travers des remarques, avec ces deux grands ténors conteurs que sont nos amis Jodorowsky et Gougo. Bon, personnellement, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux juste peut-être raconter une ou deux histoires zen, illustrant un peu cette histoire d'ombre et de lumière. Il m'en vient en tout cas... une, deux, tout de suite à l'esprit, qui sont d'abord une histoire de samouraï et d'ermite. C'est un samouraï célèbre, très fort, très puissant, mais visiblement très tourmenté, qui va voir un ermite dans la montagne, retiré au loin, et qui lui dit « Est-ce que le paradis et l'enfer existent ?» Est-ce que l'ombre et la lumière existent? Et l'ermite se tait, puis le regarde et se met à l'insulter. Mais à l'insulter salement. C'est-à-dire qu'il lui dit, mais qui es-tu, espèce de samouraï dépenaillé? Tu as du sang qui est séché sur ton armure. Tu pues la mort. Tu es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu viens me poser ce genre de questions? Mais écoute... vraiment, tu pars hors de ma vue, etc. Et le samouraï, au fur et à mesure que l'autre l'insulte, parce que je passe toutes les insultes qu'il peut lui raconter, rougit, devient cramoisi, et puis met la main sur son épée et se met à la dégainer, évidemment, pour trucider l'ermite. Et l'ermite, à ce moment-là, le regarde et lui dit « Voilà que s'ouvrent les portes de l'enfer. » Et le samouraï le regarde, pâlit et rengaine son épée. Et l'ermite lui dit, voilà que s'ouvrent les portes du paradis. Voilà. Petite histoire, la première de l'ombre et la lumière. J'en raconterai peut-être une autre, mais vous avez peut-être envie de rejaillir là-dessus, mes amis.
Oui, je pensais à... quelque chose que m'avait dit un vieil ami un jour. Il me dit, quand tu es dans la lumière, tu fais de l'ombre. Mais si tu es dans l'ombre, la lumière, c'est toi. C'est pas mal, hein? En pensant à ça, c'est ce qui, curieusement, comment s'enchaînent les idées. c'est ce qui m'a fait penser, curieusement, à la naissance, à ce qui a pu être, je ne sais pas. Nous sommes au Festival de l'Imaginaire, donc on peut se permettre d'imaginer. Qui m'a fait penser à ce qu'a pu être la naissance des contes. C'est une histoire qui m'a toujours un peu obsédé, quand même. Comment sont nées ces histoires sans auteur, qu'aucun livre pendant des millénaires n'a porté. Comment ils sont nés, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on peut imaginer. J'avais imaginé un jour que, justement, c'était une histoire d'ombre et de lumière, peut-être, d'une certaine manière, que j'imaginais que, au temps préhistorique, au temps où les gens vivaient dans des cavernes, il avait pu y avoir une nuit, dans la nuit de la caverne, une femme qui berce son enfant et que son enfant ne puisse pas dormir. Il ne pouvait pas dormir, son enfant, il avait peur. Il avait peur de la nuit, il avait peur que le jour ne revienne pas, en fait. Voilà, et cette femme-là, bercée, et peut-être que par amour, par lumière donnée, on ne sait d'où, lui est venue l'idée de lui chantonner quelque chose, de lui dire un mot ou deux, quelques mots pour le rassurer, pour faire en sorte qu'il puisse se reposer, qu'il puisse dormir. Et c'est là qu'elle lui a raconté, pour chasser l'angoisse de son enfant, la première histoire du monde. Et cette première histoire du monde, c'est cette lumière qui a donné naissance à toutes les littératures du monde. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que ça, on le sait. Ça, on le sait. Toutes les littératures du monde sont nées d'une histoire qu'un jour, une femme ou un homme a racontée pour chasser l'angoisse, pour chasser l'angoisse de la nuit. Voilà.
Bon, il faut s'habituer à mon accent. Au bout de 2 minutes, vous allez comprendre. Bon, il y a un jeune étudiant avec son maître. Elle dit, maître, racontez-moi une histoire qui me donne la lumière. Et le maître lui raconte cette histoire. Il y a un empereur qui aime beaucoup la peinture. Et il y a 2 peintres sommés de tous les peintres du royaume. Alors il va faire une compétition dans une chambre rectangulaire longue. Il va donner dans un mur l'espace pour un peintre et dans le mur d'en face l'espace pour l'autre peintre. Avec un rideau dans la moitié, ils vont peindre leur tableau, on va enlever le rideau et l'empereur va donner un prix à la meilleure peinture. Ah oui, maître, belle histoire, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le premier peintre que je vais te parler, il dessine avec imperfection énorme, les formes, les couleurs, les détails, il est dans tout. Il fait un paysage avec des personnages énormes, merveilleux. Pendant qu'il peint, on écoute à l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il fait l'autre, un bruit. Alors on découvre le rideau et on voit qu'il a poli le mur comme un miroir qui reflète la peinture de l'autre. Et l'empereur le donne le prix au reflet. Mais maître, je ne comprends pas, c'est injuste, il a volé sa peinture. Et vous me racontez cette histoire comme illuminatoire. Quelle illumination si vous, l'empereur donne un prix à celui qui vole. C'est que l'autre vraiment a fait, ce n'est pas possible. Écoute, dit, tu ne comprends rien. C'est une histoire, ce sont des mots, les mots, ce n'est pas la chose. Tu m'as demandé une histoire qui t'illumine. Voilà l'histoire. Moi, je te racontais une histoire. Et toi, tu dois la refléter et l'améliorer. Parce que c'est ça, transmettre les contes. Moi, je fais les contes. Mais toi, tu dois les capter, les reproduire et l'améliorer. C'est ça.
Alors, c'est marrant parce que j'avais carrément presque la même histoire, mais un peu différente. Oui, voilà, exactement, un peu différente. Alors, je vous raconte quand même l'histoire un peu différente. Donc, c'est toujours l'empereur, c'est toujours des peintres. Là, il y en a plusieurs, mais finalement, il a une sorte de jury, en choisit deux. Et là, c'est une perfection absolue qu'il a fait. Tout est beau. C'est un paysage léché, magnifique, sublime, incroyable. Et l'autre, par contre, c'est un paysage terrible, terrifiant, horrible, vraiment ombre et lumière. L'un, un paysage lumineux, l'autre, le paysage infernal, complètement obscur. Mais dans un coin de ce paysage horrible, il y a dans un petit nid avec deux petits oiseaux qui se bécotent, qui couvrent peut-être des œufs. Et un moment, dans cette peinture horrible qui fait peur, un immense moment de calme. Et l'empereur choisit ce tableau-là. Parce qu'il dit, eh bien, c'est la vie du monde. On vit dans un monde qui n'est pas un monde idéal, on vit dans un monde difficile, mais il y a quand même, à l'intérieur de ce monde, le calme et la lumière qui existent, et ce peintre-là a réussi à rendre cette lumière qui est aussi, et ce calme qui est aussi à l'intérieur de chacun de nous, mais qu'il s'agit en effet de trouver. Voilà, donc suivant les contes, on se balade comme ça, mais l'ombre et la lumière est toujours là.
Tu veux un conte?
J'en connais pas.
C'est l'histoire d'une princesse. Une princesse qui s'était promis de n'épouser qu'un homme entre tous poétique, surprenant, imaginatif. S'était promis de n'épouser qu'un homme qui serait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, de l'emplir de n'importe quoi pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, de plumes, de sable ou de confettis. Bref, ils travaillèrent, ils entassèrent, ils s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put remplir l'espace à ras-bord, comme il le fallait. Or, un matin, vint un jeune homme, il n'avait qu'un sac à l'épaule, il était joyeux, tout frisé. Le matin, il fit la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, puis il se fit servir du thé. Enfin, comme le soir tombait, il tira de son sac un chandelier de cuivre un peu terne, un peu cabossé. Il le planta là sur la table, planta dedans une bougie, bâtit son briquet, l'alluma, et la lumière fut partout, jusqu'aux quatre coins du plafond. Alors, ce petit conte, d'habitude, finit là, sur cette lumière, mais quand même, il arrive que certains le poussent un peu plus loin. Car il paraît qu'au soir des noces, la princesse dit au garçon « Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. »« Ah bon ? Lequel ?» dit le garçon. Vous avez deviné ? Mais non, pas l'origine. Que tu vas chercher l'origine ? Non, non, le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. Eh oui. Et pourquoi n'en as-tu rien dit ? Dit le jeune homme. Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde et garderai toujours, comme elle, une part de ténèbres, de mystérieuses obscurités où personne jamais ne pourra pénétrer.
Moi, je dirais une chose plus simple. Cette histoire m'a changé la vie à moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup raconté cette histoire parce qu'encore, elle me change la vie aujourd'hui. Elle est simple. Il y a un village, et il y a une grande montagne qui, avec son ombre, cache la lumière du soleil et les enfants de ce village grandir rachitique. il n'y a pas de joie, il n'y a pas de lumière. Et un jour, on va sortir un vieillard avec une petite cuillère de porcelaine hors du village. Et quelques quelques personnes le demandent, où tu vas? J'y vais à la montagne. Tu vas à la montagne? Et qui, pourquoi tu vas à la montagne? Et pour la changer de place. Mais avec quoi tu vas changer la montagne de place? Avec cette petite cuillère de porcelaine. Ah, jamais tu pourras. Oui, jamais je pourrai, mais il faut que quelqu'un commence. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire. Moi, je voyais le monde que c'était comme la montagne, nous empêche de... On veut changer le monde. Je me suis dit, je ne peux pas changer le monde, mais je peux commencer à me changer moi-même. Et bueno, quand je me change moi-même, qu'est-ce que je fais? Mais j'enrichis le monde et le monde change.
Il y a une chose qui est importante aussi dans cette histoire d'ombre et de lumière, c'est quelque chose que l'on vit dans notre vie quotidienne. Et je vais raconter une dernière histoire. On va voir si nos amis ont envie de rejaillir là-dessus. C'est le fait que nous sommes tous, en quelque sorte, comme le dit très bien l'adage populaire français, perdus, noyés dans nos pensées. Hein, on peut se rendre compte chaque jour qu'on est là, complètement habité par ce que les orientaux appellent le singe fou, le cheval fou, c'est-à-dire notre mental qui est là, qui est en train de tourner en rond, qui est en train de ressasser des trucs, de penser à des futilités ou à des angoisses, à des préoccupations diverses, etc. etc., etc., etc. Et que ceci est vraiment quelque chose qui est très pesant en nous et qu'il faut apprendre en quelque sorte gérer et savoir se débarrasser. Il y a une très belle histoire zen qui raconte un peu quelque chose là-dessus et qui est celle de deux moines qui sont en train de cheminer, de rentrer dans leur monastère. Ce sont des moines d'un ordre un peu strict, dirais-je, puisqu'ils ont fait vœu de chasteté. Et il y a d'autres ordres où c'est moins le cas. Et ils arrivent à une rivière qui est gonflée par les eaux parce qu'elle est un peu en crue. Et il y a une jeune paysanne, jolie paysanne, qui est là au bord de cette rivière et qui dit, je n'arriverai pas à traverser, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, dit un des moines, écoutez, montez sur mes épaules et je vous fais traverser. Et ils traversent tous les trois. Il la dépose, elle remercie, elle prend un autre chemin et eux, ils continuent leur route. Et le moine qui l'a porté, il est là, il y a le printemps, il écoute les oiseaux, il regarde la nature qui est belle, etc. Tandis que l'autre fait la gueule à côté de lui. Et puis ils arrivent en vue, après 2 ou 3 heures de marche, en vue du monastère, au loin, là, dans la... Et il dit, ah ben on va enfin arriver. Puis ils sont derrière lui, il dit, mais écoute, tu vas pas bien, tu es malade, pourquoi tu fais cette tête sans arrêt? Et l'autre lui dit, notre ordre nous dit que nous ne devons plus toucher une femme. Et alors il lui dit, ah bon? Ah, c'est ça qui t'a habité pendant tout ce temps? Ben écoute, moi je l'ai porté le temps de traverser la rivière et toi tu l'as porté tout le temps de la journée jusqu'ici. Et je trouve que c'est une magnifique métaphore de ce qui nous arrive sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est là très souvent à ressasser des tas d'inutilités, d'illusions, de tas de choses comme ça, etc., qui nous encombrent au lieu de simplement apprendre à profiter de la vie. Et c'est aussi ce que nous enseignent les contes, c'est-à-dire comment, n'est-ce pas, messieurs, comment apprendre à vivre la vie du bon côté de la vie.
Je peux répondre pour vivre du bon côté de la vie. Et là, il y a une guerre, c'est au Japon, où ils se tuent les samouraïs. Et bon, il y a un général qui tue toute l'armée ennemie. Et il reste tout seul et ensanglanté. Il rentre dans les villages et tout le monde s'échappe comme ça parce que le monstre est bien terrible. Et il arrive dans son temple, dans la porte du temple. Il y a un moine, un vieux moine qui est tranquille. Et les gars, les samouraïs, comment tout le monde s'échappe, me respecte, regarde les sang des autres qui me couvrent. Et toi, tu es là, tu n'as pas peur. Chut. Avec un seul coup de cette épée, je peux te couper en deux, sans sursiller. Alors le moine dit, bon, vous sans sourciller pouvez me couper en deux, mais moi, sans sourciller, je peux me laisser couper en deux. Voilà, il sait vivre, il y a une force physique, toujours la matière et toujours l'esprit. Et la force de la matière est grande, mais la force de l'esprit qui rentre dans la matière et qui l'épouse est plus forte.
Bon, alors, je ne sais pas, on peut vous raconter des histoires comme ça. Je crois que ça serait bien que vous interveniez, que vous posiez des questions, que vous nous relanciez peut-être, je ne sais pas. Que tout se passe sur le mode de, sinon d'une conversation, du moins d'un échange quand même.
Est-ce qu'en devenant connu, vous êtes passé de l'ombre à la lumière ?
Bien sûr que non. Parce que pour soi-même, on est toujours ombreux. De toute manière, pour soi-même, moi, je me vis comme un sac d'ombre. Je n'arrive pas toujours à me comprendre, disons. Enfin, je veux dire que c'est comme si vous disiez. Enfin, c'est très curieux ce genre de question. C'est comme si vous disiez que demandez si le fait d'être célèbre, ça vous enlève sur votre ulcère à l'estomac. Ça n'a rien à voir. Enfin bon, je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus.
Bon, parfois, je m'évade, j'étais en train de penser. Je vais te dire ce que j'ai pensé, une histoire que je connaissais, et je m'excuse, mais c'est comme ça que c'était. Il y a un fou dans une maison de fous qui est en train de manger une banane complète avec la peau, non ? Et quelqu'un s'approche, il lui dit, mais pourquoi ? Tu ne l'ouvres pas. Pourquoi je vais l'ouvrir ? Je sais ce qu'il y a dedans. Mais le commentaire, c'est que les personnes sont comme une banane qu'on n'a pas avec la pelure, tu vois. Et parfois, on dit, oh, je la traite comme je la traite, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je ne sais pas. Tant que je ne sais pas ce que ce corps porte dedans, je ne peux pas l'absorber. Ce n'est pas une relation. Alors, il ne faut pas manger des bananes avec la pelure.
C'est une question un peu particulière. Je me demande, en fait, quand on côtoie finalement autant l'enchantement par le biais du conte, comment on peut, après, réussir à finalement vivre la réalité dans laquelle on vit ? Et comment réussissez-vous à pouvoir allier les deux ? Et l'enchantement du conte et la réalité, est-ce que c'est par le biais de la transmission ou, je ne sais pas si je suis claire, je le suis dans ma tête, mais peut-être pas oralement.
Moi, je pense que la solution, c'est mettre à la place de l'autre. Généralement, on est à la place de soi-même. Et très peu de fois, à la place de l'autre. Et il y a un psychoanalyste qui est là, et une femme rentre, il la trouve belle, il lui dit, déshabillez-vous. Quoi ? Déshabillez-vous ? Montez là à quatre pattes sur cette table. Elle monte, le psychoanalyste se prépare, il la pose. Après, il arrête et dit, madame, j'ai solutionné mon problème. Quel est le vôtre ? Il ne se met pas à la place de l'autre, tu comprends ?
Je remarque, je ne sais pas si ça répond à la question, ça. Je ne suis pas sûr. Non, mais moi, je suis un mec consciencieux, j'essaie de répondre aux questions qu'on me pose. Donc, je ne suis pas un poète surréaliste, moi, tu vois. Je ne suis qu'un conteur. Je ne suis qu'un conteur qui raconte des histoires. Et la question, c'était comment on fait pour passer d'un univers à l'autre ? Oui, mais... Hein ? Sans s'y perdre. Mais moi, je ne passe pas d'un univers à l'autre. Je considère le conte comme un art de la relation. Le conte, pour moi, c'est le moyen de d'établir... Parce que je crois que le malheur fondamental de l'humanité, c'est la solitude, de se retrouver seul, à penser ce qu'on pense, à ressentir ce qu'on ressent,
à vivre ce qu'on vit, de se retrouver seul. Et c'était, on est tellement obsédé par ça. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il y a périodiquement. Quoi. Alors, l'humanité, où chacun à notre niveau, on vit avec cette peur d'être seul, c'est-à-dire d'être au monde, enfin, de n'être nulle part. Quoi. Et je crois que peut-être, entre autres, il y a de multiples raisons, sans doute, pour lesquelles on a inventé les contes, mais peut-être qu'il y en a une qui est que le conte sert à ne pas être seul. Le conte, c'est l'art de la relation dans la mesure où il permet à deux personnes ou à un groupe de personnes de ressentir les mêmes choses, de rire aux mêmes choses, de s'émouvoir aux mêmes choses. Et donc, à partir du moment où on rit, on réagit, on s'émeut aux mêmes choses, on n'est pas seul. Tu penses comme moi. Ah oui, tu ressens comme moi. Moi, je vais, en tant que conteur, je vérifie sans cesse que je ne suis pas seul. Voilà. Donc, je ne passe pas d'un monde à l'autre. Moi, je suis un peu obsédé par celui-là.
Monsieur Jodorowsky vient de dire qu'il avait encore du temps devant lui. Et je suis mandaté par mon neveu pour lui poser la question de savoir quand va-t-il tourner Dune.
Il y a des choses, tu vois, que c'est bien qu'elles ne soient pas faites. Parce que quand une chose on ne la fait pas, toutes les forces de l'univers étaient ensemble pour que ça n'arrive pas. On ne peut pas lutter contre les forces de l'univers. Il y a un dicton zen qui dit « Quand tu ne peux pas faire quelque chose, laisse que ça se fasse. » Tu ne peux pas le faire, laisse que ça se fasse. Voilà, c'est ça la réponse. Il avait une telle force dans l'intention, l'intento, l'intention, que ça a survécu le temps. Et il y a quelqu'un qui a fait une interview et a raconté la geste, l'histoire. Non, pourquoi on ne l'a pas fait? Et c'est mieux une chose qui n'a pas été faite, mais qui traverse le temps, parce que c'est toute la force de la volonté de faire qui traverse le temps. Et qu'est-ce que c'est nous, notre civilisation, c'est ça. C'est l'intention de faire quelque chose qui vaut beaucoup, autant que faire la chose. Alors, on m'a demandé plusieurs fois de publier les livres, j'ai dit non, faire les films, non, c'est bien comme c'est, parce que ça devient une légende. Et là, les contes et les légendes, parfois sont plus fortes que la réalité historique. C'est ça ma réponse.
Merci.
Mais je peux raconter une autre histoire de la mienne. Là, à moi, ça m'a changé la vie aussi, cette histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire, si c'est une blague, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une blague. Parce qu'il y a un milliardaire qui va mourir parce qu'il a une maladie qui le reste 3 mois de vie. Alors il donne une grande fête, très élégante et tout, la grande fête, et il dit à toutes les personnes qui sont venues, il dit, écoutez, moi je m'en vais. Et je laisse tout ça, je n'ai pas d'héritier. Alors, voyez-vous cette piscine? Elle est remplie de crocodiles. Cocodrilo, c'est crocodile. À celui qui se jette à la piscine et traverse la piscine, je le laisse tout. Qui se jette à la piscine? Tu le m'as dit, c'est un féroce crocodile, c'est terrible. Et tout d'un coup, on voit un gars qui nage là dans la piscine et qui donne des coups de pied au crocodile, qui monte, qui on le mord un morceau, et il traverse. Et le bras dit, voilà le champion. C'est un champion, c'est un héros, je le laisse tout. Quel champion, ni quel champion. Qui était l'imbécile qui m'a poussé? Bon, moi, tu sais, parfois, j'ai fait de ces essais de guérison artistique qui appelle psychomagie. Et je donne un conseil à quelqu'un, une chose que jamais il a fait, qui le demande un héroïsme. No? Par exemple, un qui était timide, je lui dis, sors de ta maison et va au café du coin prendre un café. Mais ça, c'est facile. Oui, c'est facile, mais va tout nu. Va et reviens, c'est tout. Alors, si cette personne s'est guérie de la maladie ou des problèmes, je vis que la personne est hargnée et ne te remercie pas. Parce qu'au fond, on ne veut pas solutionner les problèmes. On veut être traité. On veut qu'on sépare la douleur, mais on ne veut pas savoir qu'est-ce que ça qui produit la douleur. Ce n'est pas savoir être avec soi-même. Et qu'est-ce que c'est soi-même au fond? C'est nous tous. Tant qu'on ne vit pas avec soi-même, comme non moi-même, sinon nous tous, à ce moment-là, on est tout seul. J'ai dit.
Je voudrais savoir, quand vous avez parlé au début, vous avez dit la mère et l'enfant. La femme, elle n'existe pas toute seule. Ou alors, elle existe sous forme de princesse. Est-ce qu'elle existe autrement? Est-ce qu'elle existe libre? Et puis, l'homme, on le voit où aussi? Ombre et lumière, on le voit surtout dans l'ombre, parce que le mal, c'est surtout l'homme, c'est la guerre, c'est la méchanceté, c'est le pouvoir, et ça donne le mal.
Quelle est la question?
Ben, c'est ça, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on retient des contes quand on voit ça? Parce que, en fait, c'est ce qu'on voit. Le bien, est-ce qu'il triomphe vraiment que dans les contes? Et dans la vie, il ne triomphe pas, le bien, avec un B majuscule.
Oui, est-ce que le bien triomphe dans la vie, parfois? Il triomphe dans les contes. On sait que les contes merveilleux se terminent bien. La princesse va être épousée. Voilà. Donc, mais par contre, est-ce que dans la vie, ça arrive alors?
Elle a une erreur. Parce que la vie, s'il n'y a pas le bien et le mal. Les grandes erreurs, c'est l'intellect qui divise les choses. C'est Trump. Voilà les méchants. Et nous sommes les bons. C'est les cowboys. Il faut trouver les méchants et la lutte entre le bien et le mal. Et ce sont complémentaires, les bien et les mal sont des complémentaires nécessaires ensemble. Sans mal, il n'y a pas bien, sans bien, il n'y a pas mal, c'est très simple.
Oui, non, mais il y a une des choses les plus fondamentales que j'ai pu apprendre et qui m'a le plus servi et qui me sert le plus, c'est à l'époque où je travaillais avec mon ami Louis au livre qui est finalement sorti sous le titre des Sept plumes de l'aigle, il me disait des choses, des tas de trucs. Parfois, je l'arrêtais, je lui disais, mais c'est vrai ou c'est faux, ce truc? Il me regardait d'un air de dire, mais pourquoi il me pose cette question? Parce que je lui disais, mais moi, j'ai besoin de savoir si c'est une vérité objective, les esprits, par exemple, ou pas. Il ne me répondait jamais. Et un jour, il m'a dit, mais vous posez des questions de riches, vous. J'ai dit, de riches? Pourquoi de riches? Parce que nous qui sommes pauvres, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. L'important, c'est de savoir si on peut s'en servir ou pas. Est-ce que je peux me servir de ça ou je ne peux pas m'en servir? Si je ne peux pas m'en servir, je jette. Et c'est ce à quoi me fait penser votre question. Les contes, il ne vise pas à faire en sorte que le bien se réalise sur Terre. Ce n'est pas un conteur qui va changer la façon de voir le monde aux politiques. Non, simplement, les contes sont là pour vous donner des forces, pour vous donner envie de vivre, pour vous pousser du côté de la vie. Est-ce que les contes vous donnent des forces ou pas? Si oui, continuez d'en écouter ou d'en écrire ou d'en raconter. Sinon, passez à autre chose.
Alors, il y a un roi qui le dit au plissaille du royaume, qui le raconte une seule phrase. Alors, il le dit très bien, il s'en va, il arrive avec une bague, qu'il a une petite boîte. Il le dit, voilà la phrase, il est dedans cette petite boîte. Mais promettez-moi, pour que je vous la donne, que jamais vous la lirez avant que vous avez perdu tout, les royaumes, la famille, l'argent. Quand vous aurez tout perdu, ouvrez et lisez ma phrase. D'accord. Il rigole. Il n'y a rien parce que jamais je vais tout perdre. Et il perd tout parce qu'il vient de barbare, il perd tout. Alors il ouvre la vague et c'est écrit « Ça aussi passera. Ça va passer aussi. Cela aussi passera. » Et c'est ce qu'il dit. Les contes sont pour te donner l'esprit qu'il faut continuer.
Non, mais c'est clair que l'ombre et la lumière, le bien et le mal, mon maître, cher maître Zen d'Ishimaru, il disait, sont les deux faces de la même médaille. Mais c'est comme dans notre monde binaire, le jour et la nuit. Lumière et obscurité, nous sommes. Et donc, en effet, les contes ne font qu'illustrer cela et le principe de surtout y aller.
C'est ça. Qu'est-ce que c'est les noirs, la lumière, les bien et les mal, c'est double face de la lumière. C'est très simple. C'est la matière et c'est l'esprit. Et tout c'est matière, esprit. Et les grandes erreurs, c'est séparer l'esprit de la matière. L'esprit est bon, dit l'Église. La matière, il faut la laisser. C'est comme ça. Et le marxisme, la matière est bonne, l'esprit, il faut le laisser. Et on se parle des choses. Mais les deux choses vont ensemble. Moi, je pense que le tout est dans ces parties. Dans les parties, il y a le tout. Ça veut dire que si une seule partie craque, le tout souffre. Une petite pierre dans ta chaussure te fait marcher mal, et c'est tout, ou dans l'œil. Et dans ce que tu as raconté, je voudrais mettre à point des petites choses qui ne sont pas si exactes. Il y a les nuages qui passent sur le ciel bleu. Mais en bas, il y a la montagne bleue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'illumination, parce que dans l'illumination, il n'y a aucun adjectif. Les choses sont ce qu'elles sont, n'ont pas ni bleu, ni jaune. Ça, c'est subjectif, la couleur. Alors, il faut... En bas, il y a la montagne. Ça, c'est parfait. Et quand il lève les doigts, ce n'est pas ce doigt. Parce que ce doigt, ce n'est pas l'unité, parce qu'il y a quatre autres. Ça, c'est l'unité. Alors, il fait comme ça. Et ça, c'est l'unité. Donc, quand il s'en va, il dit au maître, « Regarde, j'ai fait ça, et on m'a chassé, on m'a dit, je n'ai pas compris. » Le maître lui répond, « Psst !» et lui coupe les doigts. Et à ce moment-là, il s'illumine. Parce que même ça, c'est subjectif.
Maestro.
Je voudrais vous raconter pour finir. Enfin, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Une histoire de haricots. Une histoire de haricots qui n'est pas un conte, qui est une histoire qui m'est arrivée. D'ailleurs, je parlais de Louis tout à l'heure, et un jour, il arrive avec des haricots rouges. Et il me dit, il faut que vous les semiez, que vous les soigniez, qu'ils poussent, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Les haricots... Bon, je ne vois pas ce qu'ils auraient. Enfin, il insiste assez pour que j'achète du terreau, des vases en plastique et que j'y colle les haricots dedans, que je les arrose, voilà, et que j'attends qu'ils poussent. Puis ils ne poussaient pas. Ça ne poussait pas, quoi. Au bout de 15 jours, quand même, il y a un bout de truc qui est arrivé. Et comme je découvre ça, je pense à une histoire qui m'est arrivée quand j'étais tout petit. Enfin, quand j'étais tout petit, quand j'étais au cours moyen, à l'école primaire Jean Jaurès à Carcassonne. J'étais un enfant timide. J'avais été désigné par l'instituteur pour, vous savez, les expériences que vous avez tous faites, je crois. C'est-à-dire qu'on vous donne à l'école, on vous donne des lentilles ou des haricots qu'il faut les... Et il faut les planter, puis on attend qu'ils poussent, quoi. Voilà. Donc, l'instituteur m'avait confié la tâche de veiller sur le plan de haricots qu'on avait planté et que je devais arroser pour qu'ils poussent. Et quand il m'a confié cette mission, il m'est venu une inquiétude, je me souviens, en classe. Je me suis dit, mais il ne poussera jamais. Il peut comment... Attends, il est sous 30 cm de terre obscure, là, dans le noir le plus total, comment il va savoir qu'il pousse vers le haut? Plutôt qu'à droite ou à gauche ou en bas. Comment il va savoir? J'ai levé le doigt et j'ai dit à l'instit, mais monsieur, comment le haricot va savoir qu'il faut la direction dans laquelle il faut qu'il pousse pour qu'il arrive au jour? Et ça a été un éclat de rire général. Toute la classe a éclaté de rire.
l'instituteur aussi. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai juste été ridicule avec le sentiment en me disant c'est un truc évident pour tout le monde, sauf pour moi. Quoi. Je ne comprends pas, mais ça doit être évident pour tout le monde. Bref, je suis resté avec ça jusqu'à l'épisode des haricots que Louise me donne à planter et à soigner. Et en effet, à ce moment-là, que je vois le petit truc qui pousse la petite verdure, je lui dis, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour arriver à la surface? Comment tu savais qu'il fallait pousser dans cette direction? Et aussitôt m'est venue l'idée, le truc m'a dit, mais moi, j'ai été dans la lumière déjà. Je me souviens de la lumière. C'est ma mémoire qui fait que je pousse vers la lumière. C'est ma mémoire. Et j'ai compris, j'ai eu là la réponse. Et en même temps, et en plus, on a beaucoup parlé, le haricot et moi. Je lui ai dit, mais tu arrives à la lumière là, comme ça. Alors tu crois que tu as atteint l'illumination, mais c'est pas vrai. C'est pas l'illumination, c'est juste, bon, tu arrives au soleil, mais il va falloir que tu pousses, que tu produises des fruits, etc. etc. Il y a tout un truc, tout un processus. Tu n'en es qu'au début. Tu crois que tu es arrivé, mais tu commences à peine. Et voilà comment j'ai discuté avec les haricots. Mais il y a quand même cette idée qui me trouble toujours. Je trouve tout à fait miraculeux que les plantes poussent vers le haut, parce que quand même on parle toujours de la pesanteur, de tout ce, la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, elle a une autre loi contraire, qui est la loi de la germination, c'est-à-dire ce qui pousse vers le haut, et tout ce qui pousse vers le haut. Voilà. Au fond, moi, j'essaie d'être du côté de la germination plutôt que de la pesanteur. Au fond, c'est ça.
Oui, une histoire, ça me plaît beaucoup ce que tu as raconté. Mais dans un autre point de vue, c'est pas contre. Ça parle aussi de planter des choses, cette histoire. C'est un gars qui travaille et qui plante des plantes, du blé, par exemple. Et il n'arrive pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et il appelle à Dieu, est-ce que tu peux venir pour que je te dise ce qui m'arrive? Et Dieu apparaît. Quel qu'il soit, il apparaît. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Oh mon Dieu, toutes les années, je plante, ça ne pousse pas parce qu'il y a les corbeaux, il y a les rats, il y a les tempêtes, il y a les vents, il y a les pousses, il y a tout. Et c'est terrible. Un tel travail pour faire pousser mon blé. Tu ne pourrais pas éliminer tout ça une année? Ok, cette année, aucun problème. Alors il n'y a corbeaux, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout est parfait. Donc il attend, oh là là, quelle merveille, mais la graine ne pousse pas, elle pourrit, parce qu'elle n'a pas contre quoi lutter. Et c'est beau aussi, n'est-ce pas? Alors, là, c'est ma réponse à ce que tu dis, mais venir, parce que la pesanteur, c'est le problème que la croissance doit surmonter. Et s'il n'y a pas de problème, elle ne la surmonte.
Ça me rappelle une histoire qui n'est pas une histoire, d'ailleurs, qui est la vérité, que l'histoire du cocon, le cocon qui produit le papillon, le papillon qui sort du cocon par une fente étroite, où il est très difficile de passer, où il met longtemps, il souffre beaucoup à sortir de son cocon. Le pire service qu'on pourrait lui rendre serait d'agrandir la fente pour qu'il sorte plus vite. Parce que à travers le fait de passer par ce trou trop étroit, il se défait, le papillon, de toutes les pesanteurs, de tous les liquides, les sucres, les trucs, les toxines, je ne sais pas quoi, qui l'empêcheraient de voler si on lui agrandissait le trou pour passer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, voilà, c'est la même chose, c'est ce que tu viens de dire.
C'est la même chose, la césarienne. Il y a de plus en plus de femmes qui font la césarienne et l'enfant n'est pas accouché, sinon n'est comme un tumeur extirpé. Et la naissance est faite entre l'enfant, est dopé, endormi. la naissance va se faire entre les deux, entre la mère et l'enfant qui sort en tournant comme ça et va créer ce qu'on dit, ce que tu viens de raconter. Et c'est important savoir ça. Il ne faut pas éliminer la lutte pour réussir. C'est une lutte. Il faut savoir que la lutte est formidable et elle nous fait. Et la lutte pour se trouver aussi, c'est formidable, elle nous fait.
Voilà. Moi, je préfère dire l'effort plutôt que la lutte. Parce que la lutte, ça suppose une guerre. Ça suppose qu'on se batte contre quelqu'un. Alors que l'effort, c'est pas pareil. C'est plus sportif.
La solution, c'est pas rester dans les mots. Comprends ce que je dis, c'est lutte ou guerre, ça va. Les messagers, là, malgré les mots.
D'accord. Oui, on va s'arrêter. Une dernière petite histoire de germination, parce qu'évidemment, vous m'avez donné une idée. C'est une fameuse histoire orientale, pas que zen, qui compare nous autres tous, à des vers d'eau boueuse, n'est-ce pas ? Des vers d'eau boueuse obscure, forcément. Et ils disent que c'est de l'eau agitée, c'est de l'eau qui est qu'on a récupérée dans le torrent de la vie, hein, qui nous salit, en quelque sorte. Et ils disent que ce qui est important, c'est que cette eau, on la laisse reposer de temps en temps. On la laisse se calmer. Et afin que la boue se dépose et que l'eau claire apparaissent. Et la conclusion de l'histoire, et qui est magnifique, et ils disent, c'est parce que la boue se dépose, donc que l'obscurité se dépose dans le moment de calme et que la lumière apparaît en nous dans ce moment de calme, de silence, de respiration, etc., qu'il faut savoir prendre de temps en temps dans les aléas de la vie, que, histoire de germination, la fleur de lotus qui symbole la sagesse peut s'enraciner dans la vase et se mettre à pousser justement vers le haut dans un enfer comme ça.
Mais je le sais, l'histoire, que la fleur s'enracine dans la boue et monte vers le ciel en amenant la boue.
en amenant la matière.
Oui, transformer, si tu veux, mais qu'il aille ensemble. Il ne faut pas
c'est
séparer
l'alchimie.
Ça.
Voilà, il ne faut rien séparer, vraiment. Bon, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et...
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet toutes les tables rondes enregistrées à Maintenon et proposées par la compagnie AMSA lors des rencontres du légendaire Salon du Livre organisé au château de Maintenon dans le cadre du Festival du Légendaire 2017 avec le soutien du Conseil départemental et en partenariat avec Radio Grand Ciel. La semaine prochaine, nouvelle table ronde, nouveaux invités, nous partirons en forêt à nos risques et périls. Thank you.